Amateurs de hip-hop, de poésie et de second degré, vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui, c'est avec Sébastien Gonzalez, plus connu sous le nom de Hippocampfou, que l'on va prendre le temps de discuter.
Merci à celui ou celle qui a créé ma page Wikipédia. Je trouve qu'elle pourrait être un peu plus détaillée. Comme je peux pas vraiment la modifier...
Hippocampfou, c'est un amoureux des mots, capable de poser son flow sur n'importe quel instru. Depuis plus de 10 ans maintenant, ce natif de Haute-Savoie dans l'est de la France crée des ponts aériens entre le rap et la chanson.
Il veut tout mélanger, mais se différencier. Il publie 2 morceaux sur MySpace pour se lancer.
Ses premières armes, ce cinéphile qui se rêvait cinéaste, les a faites avec un trio 100% vocal, la secte phonétique.
Pour jouer les apprentis sorciers, rapper une boxe toute la journée, déjouer la fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, entrez dans la secte.
Révélé en solo par une série de freestyles complètement décalés, il a livré en 2013 Aquatrip, le premier volet d'une trilogie sur le cycle de l'eau.
Sauf l'apparence d'un poisson.
En cette année 2024, Hippocampfou fête ses 40 ans. Il a l'air plus mature, mais surprenant. Son 5e album, il se raconte que sous son armure se dresse un vieil enfant assoiffé d'aventure, toujours en quête d'humains sincères au bal de l'imposture.
Voilà l'hôtel.
Avec Benjamin Sarali à la réalisation et Jérémy Besset à la prise de son, on va aller vérifier ça de plus près. Hippocampfou est de passage à Paris entre 2 concerts. On va aller le chercher à son hôtel, au nord de la capitale, dans le 18e arrondissement, un quartier que je connais bien pour y avoir vécu et où je me fais fort de trouver un endroit où nous poser.
Bonjour.
On a rendez-vous avec Sébastien Gonzalez.
Ah ben voilà.
Bonjour. Ça va? Désolé, je suis super.
Et bien donc Benjamin, pardon.
Bonjour Benjamin.
Jérémy.
Enchanté.
Salut.
Et
Hortense.
Voilà.
Ça va?
Jérémy, je vais désolé.
Il n'y a pas de souci.
C'est ton micro?
Ah, c'est mon micro. Super.
Merci.
Bonne
journée.
Merci, au revoir.
Bien. Merci madame. Bonjour. Voilà. Tout commence.
Est-ce que tu es bien couvert?
Écoute, j'ai mis une chemise pour frimer un peu là, parce que tu m'as dit qu'il y avait une vidéo. Mais j'ai mon manteau que j'ai eu à New York à l'époque, qui est très chaud. Donc si je le ferme, il n'y a plus aucun souci.
Donc t'es paré. Comment on dit Hippocampfou, Hippo, Seb?
Seb, c'est cool. Hippo, bah, c'est le diminutif d'Hippocampfou.
Et je pense que tout le monde meurt de savoir pourquoi t'as voulu t'appeler Hippocampfou.
Ouais.
Pourquoi Hippocampe à la base?
Bah, alors,
parce que c'est venu d'abord, il y a d'abord Hippocampe et ensuite t'as rajouté fou.
Hippocampfou, ça m'est venu un soir où j'ai tapé mon nom dans Google. J'étais étudiant en fac de ciné. Et j'ai tapé Sébastien Gonzalez et j'ai vu qu'il y avait un étudiant en cinéma aussi, un peu plus âgé que moi, ou en tout cas quelqu'un qui commençait déjà à faire des courts-métrages, qui s'appelait exactement pareil. Et je me suis dit, ah bah non, il me faut un pseudo. Et là, l'Hippocampe est apparu. Une vision, une apparition. On m'a beaucoup posé la question.
J'ai même hésité à te la poser tellement j'imagine qu'on a dû te la poser,
c'est...
mais...
Je pense que...
Comme j'adore personnellement
non, mais
ces chevaux de mer, ça m'intrigue évidemment.
Ouais bah moi c'est ça en fait, c'est que c'était très fascinant la première fois que j'en ai vu, la manière dont ça se déplace. Bah c'est comme les créatures des abysses qu'on peut voir parfois dans certains documentaires, c'est fascinant. On dirait que c'est quelque chose de totalement imaginaire qui vient d'un autre monde. Et comme moi j'étais à fond cinéma, voilà, avec une imagination assez débordante et tout, je pense que j'ai choisi ce pseudo qui m'accompagne depuis. Et maintenant on dit Hippo, mon petit Hippo, ça
allez.
Va Hippo.
Alors on va dire Hippo, mon petit. Alors peut-être pas mon petit Hippo, mais Hippo.
Pas encore, à la fin de l'interview peut-être.
Beau Hippo, on a la place de Clichy là,
ouais.
Juste devant nous.
Ouais.
Derrière le cimetière Montmartre.
Tout à fait.
Si tu prends la plus au sud, la rue d'Amsterdam, on va arriver direct rue Saint-Lazare. À l'est, on arrive à Place
quoi,
Pigalle,
ouais.
Montmartre. À gauche, vers l'ouest, on s'en va vers les beaux quartiers, le parc Monceau, la place des Ternes. Moi, je te propose qu'on reste dans le coin. Hippo, toi, Paris, c'est la ville où tu as passé ton enfance, ton adolescence.
Ouais.
C'était plus au sud, rive gauche.
Mmh.
Moi qui ai toujours grandi rive droite, dans le 15e arrondissement. Et pourtant, j'ai cru comprendre que tu t'étais jamais senti parisien. Pourquoi?
Disons que quand j'étais enfant, j'ai passé énormément de temps chez mes grands-parents en Haute-Savoie, donc toutes les vacances scolaires, et je suis né là-bas. Donc sur mon passeport, ça c'est marqué Thonon-les-Bains. Donc il y a quelque chose qui faisait que j'étais pas 100% parisien de toute façon. Ma mère n'a pas grandi à Paris, elle a grandi en Haute-Savoie, mon père est colombien. Mais j'ai été élevé, j'ai grandi quand même à Paris, j'ai fait toute ma scolarité, etc. Mais j'avais pas cet attachement à la vie parisienne. Je pense que ma mère aussi, il y a ce truc de, comme on dit, de provincial, entre guillemets, où en fait elle avait une sorte de fascination pour la ville et en même temps, elle, je sais pas, il y avait des choses qui peut-être lui déplaisaient un peu, donc peut-être qu'elle m'a transmis ce truc-là. Et c'est vraiment quand j'ai commencé mes études de ciné à donc 17-18 ans, juste après le bac, que je me suis retrouvé dans des petites salles d'arrêt d'essai et que je suis sorti. Bon, c'était toujours rive gauche, mais c'était un autre Paris que je connaissais très peu finalement. J'avais vu évidemment tous les monuments, mais c'était une manière de me balader dans des petites ruelles et je trouvais ça magnifique. Et là, j'ai dit putain, je vis dans une ville magnifique. Alors, j'étais pas spécialement plus parisien, mais j'étais fier de vivre à Paris et heureux de pouvoir m'y balader. Et ensuite, j'ai emménagé avec ma femme, enfin qui est devenue depuis ma femme, dans le 18e, donc vraiment pas loin d'ici.
Donc tu connais bien aussi le secteur. Tu l'as dit, Pau, tu es né où tes parents se sont rencontrés, c'est-à-dire en Haute-Savoie.
Ouais.
Et c'est dans ce coin de l'est de la France, entre lac et montagne, chez tes grands-parents maternels, si j'ai tout bien suivi, que tu as passé toutes tes vacances. Quel goût, quelle odeur ou quel son, comme ça, t'évoques immédiatement, sans réfléchir, ce bout de France et de l'enfance.
L'odeur du reblochon. J'adore le reblochon. Ça, c'est le genre de truc, je pense que c'est comme certains mets d'Asie ou d'ailleurs, où nous on sent le truc, on fait ah, qu'est-ce que c'est que ce truc là, cet œuf pourri ou je sais pas quoi. Bah, le reblochon par exemple, il y a des gens qui trouvent ça affreux quand on n'a pas mangé ça toute son enfance. Moi j'adore le fromage, j'adore le reblochon, la raclette, tout ça. Donc niveau culinaire, on est sur des trucs comme ça quoi.
Plutôt dégoulinant.
Dégoulinant,
odorant.
Pèse, voilà, odorant. Et après, c'est le vent qui ruisselle sur les feuilles des peupliers.
Wow.
Voilà, parce qu'il y avait quelque chose de... Ouais, les peupliers, en fait, c'est dans la propriété de mes grands-parents. Il y a des peupliers au bout de la propriété. Et ça fait vraiment un bruit quand il y a un peu de vent. Ça, un peu comme un bâton de pluie. Donc il y a ce bruit-là qui se mélange aux cloches des vaches. Et quand j'y retourne, bah, assez régulièrement l'été avec mes enfants, bah, j'adore retrouver ces sons-là.
Ah, les sonailles et clarines, voilà. Moi aussi j'adore, c'est le nom des cloches, des vaches qu'on entend là, quand elles se déplacent dans les montagnes.
Ouais.
Bon, tout ça, on est bien loin quand même du bruit de la circulation qui nous entoure ici à Paris dans le 18e. Une agitation que tu as retrouvée de manière encore plus dense, j'imagine, à Brooklyn, qui est l'arrondissement le plus peuplé de la ville de New York, où tu as vécu pendant 2 ans. Et où est né d'ailleurs le rappeur Busta Rhymes, dont tu es un grand fan. Je me suis dit, c'est-à-dire que tu trouvais Paris trop speed, puisque tu étais plutôt d'un tempérament assez lent.
Ouais.
Ça t'a fait quel effet, New York ?
Alors, moi, j'étais dans un quartier initialement italien. C'est un quartier qui s'appelle Carroll Gardens, donc qui est rempli de Français, parce qu'en fait, il y a PS58, qui était l'école publique avec un cursus bilingue. Donc, on avait mis ma fille là-bas. Et en fait, c'était assez calme et paisible. Il y avait des arbres, beaucoup d'arbres. Les trottoirs sont très larges. Après, il y avait beaucoup de marches à pied finalement parce que il y a un métro, il y a un réseau qui n'est pas incroyable. Hein, c'est pas mieux qu'à Paris, c'est même pire parfois. Mais les stations sont très éloignées les unes des autres, donc il faut beaucoup marcher. Et donc, j'ai retrouvé aussi ce plaisir de la marche que j'avais peut-être perdu un peu.
D'arpenter, de découvrir une ville
c'est ça.
En s'y baladant.
On a beau dire. On a beau dire que le temps passe vite, on s'en rend compte toujours trop tard. Nos souvenirs s'effritent, on attend la suite. On fait des petites dates, ces instants trop rares. Partie de belote avec bébé, mémé, tricote. Je m'ennuie, comme chaque été, je suis loin de mes potes. Les yeux dans le vague, je grimpe aux arbres et je sifflote. Je combats les monstres imaginaires comme Don Quichotte. Pépé écoute mes anecdotes, je parle que de cinéma. Sur un sentier de montagne en short sous les épicéas. Maman vient d'accoucher, papa s'achète un caméscope. Ma sœur c'est sa nouvelle mascotte. Chaque mercredi avec Laurent et Cacadie, on se fait des burritos, on loue des films, on s'abat. Karabashi. Papa travaille la nuit avec son groupe de mariachi. Souvent il reste au lit ou compose sur son Atari. Bercé par ses mélodies, obsédé par les filles du lycée. Premier spiff sur fond de rap et fou rire alcoolisé. Ma sœur et moi on parle moins, nos liens sont distendus. La nuit je dors plus, je regarde des films de Kubrick. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, jamais rien senti d'aussi fort. La femme que j'aime a fabriqué ce tout petit corps. Elle m'appelle déjà papa, je suis son mentor. Parfois elle me parle et j'écoute pas, j'ai tellement tort. Parce que ces phrases elle les répétera pas. On a beau dire qu'on ne vit qu'une fois, au fond on n'y croit pas. Maintenant j'ai trois enfants qui jouent des étoiles dans les yeux. Je profite de ma famille et ça pour ces instants précieux. On a beau dire que le temps passe vite, on s'en rend compte toujours. Nos souvenirs s'effritent, on attend la suite. On fait des petites dates, ces instants trop rares.
Aujourd'hui, Hippo, et depuis 4 ans, tu vis à LR, comme tu dis, à La Rochelle.
LR, ouais, c'est LA, c'est un peu comme LA. Mais je dis, j'utilise plus trop LR parce que les gens me disent les Républicains. Non, c'est pas
sûr,
rien à
pas
voir.
Pensé. Bon, La Rochelle.
Voilà, c'est La Rochelle.
Oui,
en fait.
Tu es dans le sud-ouest de la France, au bord de l'océan Atlantique.
Ouais.
Avant de t'y installer, tu as joué avec ton ancien groupe, la secte phonétique, au Francofolie.
Ouais,
un festival
ouais.
qui a quasi le même âge que toi, puisqu'il aura 40 ans en 2025.
Ah ouais.
Et puis tu as joué aussi à plusieurs reprises en solo, grâce notamment au Chantier des Franco, qui est un dispositif qui a pour mission de découvrir et d'encourager les nouvelles voix de la scène française.
Ouais.
Est-ce que ce sont ces expériences qui t'ont fait aimer cette ville au point d'avoir envie de t'y poser ?
Bah, c'est exactement ça. Le premier concert donc, où je me produis à La Rochelle, c'est pour les Franco. C'était un tremplin, je crois que c'était SFR Jeune Talent, un truc comme ça. Bon, on avait gagné ça avec la secte phonétique. Je débarque au milieu des Franco, super scène, public nombreux. Enfin, on a eu un succès à titre posthume, mais à l'époque, bon, on faisait des petites salles, on n'était pas plus connus que ça. Et là, il y avait vraiment un public nombreux, les gens étaient assez réceptifs. Et on se retrouve à profiter du festival et se balader dans la ville. Et je me dis, c'est génial, c'est trop beau là, le port, plein de gens, de l'animation. Ensuite, j'y retourne donc pour faire le Chantier des Franco en solo. Et là, je viens à des périodes hors festival et hors période touristique. Et je me dis, bon, c'est beaucoup plus calme, mais c'est toujours aussi beau. Et finalement, il y a un théâtre, il y a un ciné, il y a la grande rue.
Il y a une vie culturelle dans laquelle, je crois, tu es très investi d'ailleurs.
C'est ça.
Tu mènes des ateliers d'écriture notamment. Et tu dis que tu t'y sens aujourd'hui à ta place.
Complètement.
C'est beau ?
Ouais, bah c'est bien de trouver sa place. En fait, moi je pense que j'arrive à m'adapter et je peux trouver ma place partout. Du moment qu'il y a ceux que j'aime et que je peux
et que t'as des projets.
M'en extraire et que j'ai des projets. Et aussi du wifi, voilà. Mais disons que La Rochelle, c'est l'endroit où je dois être à l'âge que j'ai avec cette famille qui maintenant est nombreuse. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour moi. Et voilà, il y a l'océan, c'est pas loin de Paris quand j'ai besoin de venir faire des interviews comme là, ou un concert hier soir. Ce qui m'a manqué par exemple à Brooklyn, c'était ce côté vieille pierre, histoire. Tout est très quadrillé et tu vois là Paris, je veux dire on va n'importe où, t'as des diagonales, des ruelles, des impasses. Il y a de la surprise en fait, il y a un côté plus labyrinthique qui me plaît. Voilà.
Bon alors je vais pas te surprendre parce que tu connais très bien ce quartier déjà,
ouais.
Mais je te propose qu'on avance un peu, peut-être qu'on aille parler des projets que tu fais mûrir à La Rochelle depuis que tu es installé. Et peut-être qu'on pourrait aller se mettre au chaud.
Ah ce serait
pour
pas
en
mal.
Parler.
Ouais.
Un petit café comme ça.
Ah bah vas-y, ouais, ça ce serait pas mal. J'avoue. Avec grand plaisir. Tu as des adresses et tout, toi qui as vécu là ?
Écoute, je te propose qu'on n'aille pas très loin et qu'on se mette juste là.
Ah bah vas-y.
Peut-être pas en terrasse, face à mon ancien lycée, n'est-ce pas ? Jules
ah
Perry.
Ouais, d'accord.
Je suis à la maison.
T'es vraiment à la maison. Est-ce que tu crois qu'ils servent des cafés ?
Au bel ami, je pense qu'ils servent des cafés.
Se croisent près.
presque tous les jours. La plupart d'entre eux foncent en évitant les longs détours. Certains sont discrets, d'autres veulent marquer l'histoire, s'entraident, s'entretuent ou bien s'emmerdent dans leur tour d'ivoire. Ils sont des pleins de paille, des grains de sable, se réfugiant dans des croyances pour accepter l'infini. Les plus sceptiques colmatent les failles ou plantent des arbres, cherchant des quêtes et des questions pour y abriter l'invisible.
Moi je veux bien tout.
Moi j'ai vieilli. Mais j'ai pas mal.
Si on se rencontre à Paris, Hippo, tu l'as dit, c'est parce que tu étais en concert hier soir, non loin de la place de Clichy, où nous nous trouvons dans une salle qui s'appelle la Boule Noire. Et tu étais en concert là-bas pour fêter la sortie il y a quelques semaines de Présent, ton cinquième album. Une grande partie de ta famille était là, dans la salle, hier soir, mais aussi sur scène, puisque cet album sur la famille, tu l'as confectionné avec ta famille, tes enfants, ta femme, ton père et ta sœur Anaïs, de 10 ans, ta cadette. Elle figure sur deux titres de ton album et hier, elle a aussi assuré la première partie en interprétant une de ses compos et plusieurs reprises de Camille à MC Solar. Un gros big up d'ailleurs si elle nous écoute pour sa version de Caroline. Une chanson quand même qui a bercé mon adolescence, on la connaît par cœur et de l'entendre interpréter de manière si personnelle, voilà, ça fait bien plaisir. Dans la famille Gonzalez, sur scène, il y avait également ta fille, Lily, 13 ans, bientôt 14, avec qui tu as écrit un titre qui se présente comme un battle intergénérationnel.
C'est ça.
T'as pas la ref.
Je sais pas comment tu vis sans Twitch. C'est triste comme tes sandwichs sur TikTok. T'es cringe, papa, crois-moi, je te le dis, je m'en fiche. Ta vie, c'est un trait d'horreur, j'avoue. J'aurais préféré un featuring avec Natsu. Ris pas, je parle du Shiba, il est plus suivi que toi. Bref, t'as pas la ref. T'es bon sur scène, mais dans les petites salles. On ne voit jamais dans les festivals. Tu connais aucune star dans le game. J'attends toujours mon autographe d'Angèle. D'ailleurs, c'est pas toi le meilleur, t'es qu'un mauvais player. Quand tu fumes, t'as les yeux rouges comme Muzan. Obligé d'appeler les piliers de Demon Slayer. T'as pas la ref. Au collège, personne te connaît. Prof d'histoire, fan de poney.
Ouais, il est gentil.
Il a 60 ans, il est malentendant. Il habite seul avec sa mère dans la forêt. N'aie pas le seum, fais pas le jeune. Arrête avec tes mots d'ado. T'es grave chum et fat gum. Dis-moi, où sont passés tes abdos? T'as pas de bling, t'as pas d'army.
Hein?
Tes seuls fans, c'est des mamies.
Non.
Personne vient voir tes chorégraphies moisies, même pas tes amis. Papa, j'espère que tu m'en veux pas.
Okay.
Devant tes clips, je rigole pas. Tais-toi, laisse-moi regarder Joyka.
Bien vu le tacle, mais je l'évite comme Olivier Tom. J'arrive, broliqué comme Shaft, John McClane, Cobra, Jack Slater ou Nicky Larson.
Je connais.
Tu joues les vols qui rient, mais t'es pas de taille face à mon artillerie. Et toutes les phrases qui riment dans mon joli cahier Waikiki. Ouh ha, boum, bidi bye bye.
Tranquille.
Tu charries, tu te crois dans le coup, c'est cela, oui. Branché comme une Tesla, mais que peux-tu contre une ferraille? Je crois que t'as pas compris, je t'oublie dans les marécages de la mélancolie. En compagnie d'Artax. Hey, petit Tamagotchi, tu veux que je te nourrisse? Contacte-moi par fax.
Hein?
Sache qu'un tas de personnages que tu trouves illustres seront oubliés comme Brandon Brenda, Cortex Minus, Ilke, Que ou Pticus.
Chut.
T'as le même style que tes copines, t'as le baggy, t'as le legging et le pas def. T'as peur de pas trouver ta place, tu te fonds dans la masse, pourquoi tu fais la chef? Je te file une pièce de 5 francs, une chignole, un bout de ruban, c'est pas insultant? C'est le kit intégral pour fabriquer ta médaille d'argent.
Tu
communiques dans le skeu muskin, mais où est le respect, hein?
Wesh.
T'as plus la tête sur les épaules normales, il ne peut en rester qu'un.
T'es éclaté franchement, comme tes playlists.
Ouais mais 75% de ce qu'il y a dans tes playlists, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Tous les Disney déjà, quand t'étais petite. Doja Cat, Ice Spice, Central Cee.
Ouais, Hippo, il apparaît pas dans mes playlists en tout cas.
On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes. On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais t'as pas la ref. On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes. On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais t'as pas la ref.
Mais il est bien ton prof d'histoire, moi. Je le trouve un peu. Voilà, il est un peu rigide.
Il est chauve.
On peut le dire, Hippo, ta fille Lily, elle assure grave dans le rap, dans la présence. On peut dire aussi qu'elle est magnifique, mais ça, c'est en plus, c'est bonus.
Ça, c'est subjectif. Après, moi, je ne peux dire, je ne peux que confirmer.
C'était la première fois qu'elle montait sur scène à tes côtés?
Non, c'est la troisième fois. Parce qu'en fait, elle est montée une première fois à La Sirène, qui est une grande salle de La Rochelle. Donc, sa première expérience, elle venait d'avoir 13 ans, je crois que c'était le lendemain de son anniversaire.
Ah ouais?
Et elle m'a bluffé.
Et comment il est né ce morceau, T'as pas la rêve? C'est ta fille ou c'est toi qui as eu l'idée du thème?
Alors l'idée du thème, je pense qu'on l'a eu naturellement parce qu'on se vannait depuis quelques temps, c'est-à-dire depuis qu'elle est rentrée en fait en 6ème, au collège, sur le côté ouais, ce que t'écoutes, c'est la musique de vieux, c'est... Bref, il y a un petit passage parlé vers la fin du morceau. où elle me dit « t'es éclaté comme tes playlists ». Et en fait, ça, c'est clairement une discussion qu'on avait eue à une époque où elle m'avait dit « vas-y papa, arrête avec ta musique de yeuve ». Elle m'avait dit ça, « musique de yeuve ». Et elle avait 11 ans, 10 ans, je sais plus, enfin bon, en 6e quoi. Et je lui dis « mais comment ça, musique de yeuve, tu te fous de moi ou quoi ?» Je dis « vas-y, fais voir ta playlist », parce qu'elle avait sa petite playlist déjà. Je dis « tu vois, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. »
Est-ce que tu me dis dans le morceau 70% de ce qu'il y a dans ta playlist, c'est moi qui te l'ai fait découvrir.
Cette discussion-là, et je lui disais « arrête de te la raconter, parce qu'en fait, si t'écoutes ça, c'est grâce à moi, donc moi, t'es ouf. » Moi je connais tout. Et donc on en jouait sur le côté elle veut faire genre, elle est super pointue, elle connaît des trucs de fou, mais en vrai il y a beaucoup de choses qu'elle suit et que je connais. En revanche, toute une partie qu'il y a dans le texte, donc le texte on l'a vraiment écrit à quatre mains, voilà, on a trouvé les rimes ensemble, mais elle m'a listé plein de choses. Je connais même pas, j'ai jamais Demon Slayer, je sais pas quoi, Fat Gum, mais donc voilà, elle m'a listé plein de de rêves que je n'ai pas, puisque en revanche, ouais, sur le côté manga, K-pop, elle est plus trop dedans, hein, mais au moment où on l'a écrit, c'était encore c'était un peu son délire. Donc elle avait des rêves que moi j'avais pas. Et après, il y a des trucs évidemment, Squeezie, Jurika, je connais quoi, je suis pas non plus un dinosaure.
Pousser les gens à s'exprimer, à choisir les bons mots pour parler d'eux, c'est ce que tu fais depuis plusieurs années, Hippo, en animant des ateliers d'écriture, ouais, en milieu scolaire, mmh, et aussi carcéral.
Ouais.
Du coup, quel a été le déclic pour entreprendre de faire la même chose, mais avec tes proches?
C'est à force d'enregistrer des ados, des enfants. J'ai fait ça en colo aussi. Donc j'étais un peu seul toute la journée dans une colo. J'en profitais pour écrire et pour bosser. Et j'avais 3 heures d'atelier le matin. Et après, les jeunes partaient faire des activités. Et on arrivait à faire un morceau qu'on enregistrait, qu'on faisait écouter à la fin. Et franchement, quand on faisait écouter le son et tout, j'étais en mode « Ouh !» Je trouvais ça lourd. Et je me disais « C'est lourd, j'ai envie de les mettre sur Instagram et tout. » Mais ça reste privé et je trouvais que ouais, il y avait des punchlines, des trucs qu'on avait trouvé ensemble. Je me disais mais ça tue ça en fait. En plus c'est des jeunes et tout, donc ils sont là, ils ont le flow. Et voilà, et donc je me dis waouh, je crois que je vais faire un truc où je vais faire participer ma famille comme dans les ateliers d'écriture. Et il y a un événement, voilà, il y a eu un décès dans notre famille et on s'est retrouvés très très soudés. Très très bas moralement, enfin je veux dire, c'est normal quoi, c'est toute une période de choc parce que c'était très brutal et c'était pas du tout prévu. Et fin 2022, donc ça arrive, et donc 2023, le temps de redescendre doucement et de reprendre un peu nos esprits, je me dis, on traverse tous ce truc là et on est soudés, donc on pourrait faire un album ensemble. Comme une thérapie familiale, où en fait il y aurait toujours cette idée d'absence, de manque, de disparition et de temps qui passe. Et ça, c'est un peu notre base. Mais on essaye de faire quelque chose de malgré tout optimiste et de, finalement comment on se reconstruit en famille et comment on avance malgré tout. Voilà.
Le décès dont tu parles, je crois, c'est celui de la
belle-mère.
Maman de
ouais,
ta femme, Elodie,
ouais,
qui interprète en solo sur ton album un titre bouleversant. Écho.
La vie s'écrit sans jamais faire appel à nous, et chacun tente de combler ce texte à trous. On dit que tout roule, mais c'est sans compter les à-coups. Je suis vivante, mais t'es plus là et ça gâche tout. Envie de rien, besoin de toi, de ton amour. C'est grâce à toi si aujourd'hui je tiens debout. En cas de coup dur, je me réfugiais dans tes mots doux. Tu me guérissais d'un simple baiser sur la joue. Ça me foudroie quand j'ouvre les yeux chaque matin et réalise que tu ne rouvriras pas les tiens. J'aimerais qu'on ait de longs débats, quitte à m'engueuler avec toi, mais y'a que l'écho de ma voix qui me revient. Mon cœur brisé, j'en ai ramassé les fragments. Je vais le recoller, mais il battra plus comme un vent. Je suis orpheline, je me sens perdue et j'ai pas de plan. Toutes mes passions semblent être devenues des passe-temps. Seule sur le quai d'une gare fantôme, j'attends ton train. T'es pas sous terre, je sais que t'es caché quelque part. Comment pourrais-je m'épanouir sans ton soutien? Je suis transparente et démunie, dit que le temps c'est tout ce qui peut nous apaiser, que la tristesse on finit par l'apprivoiser. Mais j'ai perdu ma seule maman, c'est terminé. C'est une blessure qui ne pourra pas cicatriser.
Ta femme, Hippo, cette déesse aux yeux, je te cite, carabine, qui projette des éclairs comme l'empereur Palpatine, ta muse, qui quand elle ne partage pas avec toi une épopée céleste, se trompe avec le marchand de sable, ta femme, donc Élodie, et plus largement ta famille, ça fait un bout de temps, Hippo, que tu en parles en chanson, depuis au moins 10 ans et la sortie de ton premier album solo, Aquatrip, je pense au titre Papa au foyer, bien sûr, où tu écris à propos de la toute jeune Lily, transmettre et recevoir, l'aimer sans la décevoir, l'élever, la regarder s'envoler avec espoir, et quand je l'entends rire, j'oublie mes préoccupations. Puis en 2018, ton troisième album, il y a eu Dormez-vous, une autre manière très drôle de célébrer les joies de la paternité. Je pourrais citer aussi Pas pour les jeunes, sur l'EP du même nom en 2021, dans lequel se reconnaîtront les quarantenaires, ou presque, mais surtout les parents. Et aujourd'hui, alors que tu es, selon ton expression, triple daron, et quadragénaire, et donc selon toi, à mi-chemin entre le berceau et le cercueil, sur le titre Demi-vieux, tu poses la question, ai-je trouvé l'équilibre entre papa et rappeur ? Qu'est-ce qui te fait douter ?
J'ai la sensation, moi, de m'en approcher de cet équilibre, et finalement, quand j'ai posé cette phrase-là à ce moment-là, c'était pour dire, c'est une question que je me pose. Évidemment, on n'a pas une réponse absolue, et puis il y a des jours où on est plus papa que rappeur, etc. Mais bon, c'est, faut toujours trouver l'équilibre. Donc c'est plutôt, je dois veiller à trouver cet équilibre.
Rester vigilant.
Je dois rester vigilant. La réponse à cette question, ai-je trouvé l'équilibre entre papa et rappeur, c'est dans On a beau dire, qui est un des derniers morceaux de l'album, où je dis, maintenant j'ai 3 enfants qui jouent des étoiles dans les yeux, je profite de ma famille et savoure ces instants précieux. Voilà. Et c'est un peu la réponse à ce truc-là, où je dis, c'est quand même...
La priorité.
La priorité, c'est la famille. Mais je le fais en musique. Donc au final, tu vois, je...
Tout continue à se mélanger.
C'est ça. C'est ça.
Dresser un état des lieux de ta situation, nous donner de tes nouvelles, en quelque sorte, c'est ce que tu fais à chacun de tes albums, Hippo. Tu le fais de manière, j'ai l'impression, de plus en plus introspective, intime, en tout cas. Et le temps qui passe, je crois qu'on l'aura compris, est une thématique très présente dans tes textes. On la retrouve aujourd'hui, bien sûr, sur ton 5e album, où il est question de savourer le moment présent. Mais elle était déjà là en 2015, sur ton 2e album, Céleste. Je pense notamment au titre d'ouverture, Las Estrellas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que dit ce texte, et notamment son refrain en espagnol ?
Donc c'est mon papa qui chante, déjà. Alors les étoiles, finalement, ça symbolisait pas mal de choses. Ça peut être la magie de l'enfance, toutes ces petites étoiles qu'on voit un peu partout quand on est jeune. Et puis, en fait, on s'émerveille un peu moins, donc on rêve moins. Mais c'est aussi nos idoles, comme je dis dans Demi-vieux, qui disparaissent, que ce soit des acteurs, des actrices, les héros de notre enfance, mais ça peut être aussi nos grands-parents, nos parents, ils s'éteignent. Et donc petit à petit, il y a un peu moins de magie.
L'espagnol, c'est la langue de ton papa, Francisco González, qui est colombien, ouais, qui est arrivé en France en 1980. Comme son papa, ton papa est compositeur et guitariste. Sur ce même album, d'ailleurs, Céleste, il t'accompagne à la guitare sur le titre Arbuste généalogique. Et puis sur l'album Terminus et le titre Langue paternelle, tu parles de toi à la 3e personne et tu t'adresses à lui. Voici tes mots. Il est allé en Colombie 3 fois dans sa vie, 3 mois en 34 ans. Chaque fois qu'il est là-bas, son sang bouillonne vraiment. Il s'est juré d'y retourner sans boussole, juste pour s'imprégner de lumière et laisser chanter son ADN, éteindre ses fantômes qui le hantent sans cesse. Ta famille, c'est aussi la sienne. Un jour, il osera. Un jour, il faudra qu'il aille là-bas sans toi. Ce titre, il est sorti en 2018. Est-ce que depuis, Hippo, tu as pu faire ce voyage ?
Non. Et pourtant, j'étais aux États-Unis, donc pas très loin de la Colombie, mais... Non, je suis pas retourné et puis j'en ai reparlé dans... J'ai fini le taf, d'ailleurs, où je dis que j'appelle jamais ma famille. Ça, c'est quelque chose qui me... Ouais, quand je dis étreindre ces fantômes, c'est ces gens qui font partie de ma famille, mais que j'ai trop peu côtoyé. Et quand j'étais petit, il fallait aller à la cabine téléphonique dans le...
à côté de la station de métro duplex où j'habitais, pour parler à ma grand-mère et mes grands-parents, enfin pas mes grands-parents parce qu'il n'y avait que ma grand-mère, mais à ma tante et mon oncle. Et du coup, c'était pas facile, donc j'ai pas pris l'habitude de communiquer avec eux et de parler, de prendre des nouvelles. Et en revanche, quand ma grand-mère est venue en France ou quand je suis allé là-bas et que j'ai passé donc ces trois mois, trois fois un mois en gros, quoi, j'étais à ma place. C'était un peu comme La Rochelle, c'est d'un coup je me disais « Ah, mais c'est trop mon flow ça, les gens ils sont chill, ça… » Je sais pas, ils vivent de musique, je sais pas, ils sont heureux de vivre. En fait, il y a quelque chose de très simple et le fait de communier et la musique vraiment omniprésente avec… je me rappelle, la dernière fois que j'y suis allé, c'était avec ma fille qui avait 2 ans. Et donc on débarque là-bas et on s'est tapé 15 heures d'avion. ma grand-mère, ma tante, mon grand-oncle et mon oncle sont dans une sorte de camionnette. Ils sont venus nous recevoir. Explosé, tu vois, on n'a rien dormi, Lily est comme ça et tout. Et là, ils sortent l'accordéon et mon père, il commence à chanter. Et non, et voilà, donc il y avait un petit décalage
ouais, c'est ça.
Mais moi, ça m'a pas saoulé. Moi, j'étais trop souriant, trop heureux et je me disais, ah voilà, ça y est, c'est ça, on a ça dans le sang, on est tous musiciens en Colombie, toute ma famille. Et quand je suis là-bas, je me sens bien, mais j'y retournerai, bien sûr. Mais j'y retournerai avec mon papa, j'espère, et pas sans lui, au moins une fois.
En parlant de voyage, Hippo, on me dit que tu as un train à prendre pour rentrer à La Rochelle.
C'est vrai.
Est-ce que ça te va si on continue cette conversation sur le chemin de la gare, du coup ?
Carrément, tu veux y aller à pied ou quoi ?
Non, métro.
Moi, je me sens pas vieux. Je me sens pas un petit vieux comme ça. Mais dès que je pense que je suis grand-père, je me transforme un peu en vieux. Chacun de nous comporte l'histoire de l'humanité et peut-être l'histoire de la vie. Depuis les protozoaires, on est là. Donc c'est une machine qui continue comme ça et tout. Après, les gens, pour se rassurer, ils se créent des mondes, d'autres vies, peut-être, mais on ne peut pas savoir. En plus, l'éternité, ça doit être horrible, t'imagines ? On continue à vivre, et on va faire quoi dans notre éternité ? Si c'est pour flotter comme ça, comme les songes, je pense que non, que l'éternité est là, et c'est là. C'est là que j'ai vu continuer l'éternité. Qui continue comme ça, et maintenant avec mes petits enfants, ça va plus loin, et on verra.
Hippo, avant de s'engouffrer dans le métro, pour rejoindre la gare Montparnasse, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants devant un lieu que tu connais peut-être. Le cinéma qui est là-bas.
Ah, le Pâté Pepler.
Le multiplex. On vient d'entendre ton papa avec un interlude, L'éternité, qui figure sur ton nouvel album.
Ouais.
Ton papa qui est donc guitariste, notamment au sein de l'ensemble Revo Checo, un groupe…
Recoveco.
Recoveco.
Ouais.
Recoveco, je veux dire. À l'italienne, ouais. Recoveco. Un groupe colombiano-vénézuélien qui allie la virtuosité académique à l'improvisation et à la spontanéité qui est propre aux musiques populaires de ces deux pays.
Ouais.
Fin des années 90, quand ce groupe a commencé à se produire sur les scènes internationales, ton père te demandait de venir le filmer.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, le cinéphile que tu es veut devenir cinéaste.
Tout à fait.
Et c'est justement pendant tes études de cinéma que tu as découvert le rap. Si c'est le cas, comment ça s'est passé ? Et est-ce qu'il y a un film en particulier qui a servi de déclic ?
Le film Ghost Dog de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, donc, cinéaste que je connaissais très peu à l'époque. Et donc, je vais voir Ghost Dog et le mélange de références aux films de mafia avec la culture samouraï et culture hip-hop, puisque c'est Reza du Wu-Tang qui fait la BO. En fait, ça mettait au même niveau ces trois univers. Et le hip-hop, qui était une musique relativement populaire à cette époque-là, n'était pas encore devenu la pop urbaine et la variété d'aujourd'hui. Et je me dis, waouh, mais en fait, j'ai envie de savoir qui est Flavor Flav, que kiffe ce vieux mafieux. J'ai envie de réécouter ces morceaux, voilà, et donc je connaissais évidemment des albums de rap, j'en avais déjà écouté, mais il y a quelque chose d'un peu ésotérique, et donc je découvre le Wu-Tang et Enter the 36 Chambers, premier album, et voilà, et je kiffe. Et comme en parallèle, donc, je faisais mes études de ciné, je découvre l'histoire du cinéma et je redécouvre des réalisateurs et leurs influences, donc je remonte un petit peu, je fais l'arbre généalogique, voilà, et je me dis ok, donc lui c'est le, voilà, Todd Browning qui influence Tim Burton, qui lui-même influence tel réalisateur, etc. Et donc j'aime bien ce truc de qui influence qui, et donc je le fais dans le rap, et voilà, c'est mon côté un peu bon élève, ou je sais pas, j'ai envie de connaître, de découvrir le... Ouais, enfin voilà, j'ai envie...
De comprendre.
J'ai envie de comprendre, voilà. Et donc ça me passionne, mais vraiment dans tout ça, moi, c'est le rap qui me plaît le plus.
Dans un film, il y a bien sûr le scénario, l'histoire, l'art ou pas de créer des situations. Et une fois qu'on a donné vie en image à ce scénario, vient le montage, ouais, qui lui aussi est une écriture en soi.
Bien sûr.
En quoi justement l'écriture cinématographique, elle nourrit tes textes aujourd'hui ?
Le montage, là où je découvre vraiment la puissance du montage, c'est dans le cinéma documentaire. Parce qu'on est dans quelque chose où on capture le réel, on sait plus ou moins, comme toi, hein, tu vois, par où on va passer, ce qu'on va aborder comme thème, mais on ne sait pas exactement ce qui va être dit et quelle émotion va émerger à ce moment-là. Et le montage permet de raconter quelque chose qui pourrait être trop fouillis, ou donc on recrée de l'ordre. Et donc moi, dans l'écriture, quand je trouve un thème ou quelque chose que j'ai envie d'aborder, je liste des bouts de phrases, des images, des mots-clés, tout un champ lexical comme ça. Et puis, une fois que j'ai un mot, que j'ai une rime, je me dis ok, alors ça, si je le mets avant, ça va bien marcher rythmiquement avec cet enchaînement de phrases. Et dans l'histoire, ok, donc il faut que je trouve la jonction. Donc je pense que je suis peut-être un des rappeurs qui utilise le plus de mais, donc, alors. C'est ce truc de chronologie ou très narratif où je suis pas juste en train d'aligner des punchlines, même si ça m'arrive de le faire. Mais quand je raconte une histoire, en tout cas, il faut que les gens puissent suivre le film du début à la fin.
Sur ton premier album, Hippo, et le titre Hymne au cinéma, tu écris: le cinéma, je m'y sens chez moi. Je ne pourrais pas vivre sans me glisser dans ces draps. J'aime m'y réfugier quand dehors il fait froid. Alors, en ce début d'hiver, il fait grave froid. Il y a du vent aujourd'hui à Paris, il a neigé il y a quelques jours. Je t'aurais bien proposé qu'on aille se faire une toile du coup.
Ah,
mais
ouais,
le temps passe, décidément, très vite en sa compagnie. Et je crois que cette fois-ci, il faut vraiment qu'on s'engouffre dans le métro pour rejoindre la gare. Toi, ouais, qui as un train à prendre.
Donc on part prendre le métro, la fameuse ligne 13. Fait rêver tous les gens.
Sur la route au milieu d'une forêt de pins, ma femme conduit, moi je connais le chemin. On est cinq à l'étroit pour faire le pain. Sur mon jogging, des miettes de pain. Il suffit d'un violent coup de frein pour finir en tas de défunts. Donc j'agis, je prends les choses en main et choisis du songe en l'enceint. DJ copilote, double casquette pour une famille de dummies qui redoute de crash test. J'ai la zik, elle est plein dans mon joujou high tech et je dois contenter mes enfants qu'elle éprouve en casse-tête. Pique-nique dans la cova, dans la playlist à la cova. Kershwin, Doja, Dino Rota, Rosalía, Tokija et Buena Vista. Polo et Palais, la guitare de papa.
Allez, on descend dans le métro. T'as des tickets?
Je crois qu'il me reste un truc sur mon pass. J'espère. Écoute, on va découvrir tout de suite.
Attention.
On va voir.
Eh ben non.
Non mais attends, j'en ai deux.
Magnifique.
Et voilà, somme zéro, tu vois. C'était mon dernier voyage. La 13, hein.
Oui, la 13, c'est par là. Alors, Hippo, on est sur le quai de la ligne 13.
Mmh. Et le train arrive dans XX minutes, apparemment.
C'est ça. On n'est pas tout seul, il y a un petit peu de monde, et pour l'instant, il n'y a pas de métro.
Ben voilà, ça, c'est l'imprévu, c'est le documentaire, c'est on sait pas, tu vois.
Voilà, il semblerait qu'il y ait un bagage abandonné sur la ligne, le trafic est interrompu.
Ouais.
Donc je te propose qu'on ressorte.
Eh ben ressortons.
Et on va trouver un autre moyen de transport.
Donc j'ai grillé mon dernier trajet Navico.
Ton dernier ticket.
Quelle tristesse. Ça fait partie des risques du métier. raté son train.
Tout va bien.
La dame l'a dit, tout va bien.
Ouais. Reste calme.
Ah bah ça remarche.
Tais-toi. Hein? Tu es nul.
Rose, look at
it. Ta playlist n'est pas convaincante.
Eh hey, mais comment tu parles, elle déchire
ton
ma playlist.
Ton sens de l'orientation non plus.
Mais il se passe quoi? Comment on est un...
Tes enfants ne te respectent pas.
Bon, ça m'énerve là.
Tu ferais mieux de passer ton permis.
J'avoue. GPS.
Je sais tout de toi.
GPS.
Tu consultes des sites pornographiques.
GPS.
Tu étais encore connecté hier soir.
GPS.
Tu as regardé la vidéo MILF se tape un autostoppeur.
GPS.
C'est vrai, papa?
Mais non.
Bon, décidément, Hippo a du mal à quitter cette place de Clichy.
Ouais, c'est ça. C'est
nous revoilà en extérieur. Et on va essayer de faire efficace. Pour être sûr que tu rates pas ton train, on va prendre un taxi. Hippo, regarde, notre van est arrivé. C'est magnifique.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
On peut monter?
Un peu, ouais.
Waouh! Magnifique.
On fait un documentaire sur les vannes.
Oh, on va être bien, là.
Ouais. On a la petite lumière, on se prendrait presque dans une limousine. Là.
Entre la ligne 13 et le minivan.
Ah, là, on a changé de statut. Hein.
Bonjour, monsieur. On va à Gare Montparnasse, s'il vous plaît.
Merci.
Ça y est, Hippo, on arrive enfin à quitter cette place de Clichy. Et le pâté Vépler, le cinéma devant lequel nous étions à l'instant. Toi, finalement, au banc de montage au 7e art, tu as préféré la scène et le spectacle vivant. Pourquoi et comment? En fait, ça a été quoi la bascule?
C'est fac de ciné, donc à l'époque Paris 8. Je fais un documentaire sur mes grands-parents, puis un documentaire sur mon père. Mais ces docus, je me dis, il y a un truc touchant et je pense que il y a quelque chose qui me correspond. Et puis c'était le côté où je filmais, je montais moi-même et donc, je prends beaucoup de plaisir à monter ça. Mais voilà, le film est figé, je peux pas revenir sur le montage, je peux pas adapter le film au spectateur. Donc on n'est pas sur de l'art vivant. Voilà. Et donc c'est cette découverte de la scène et de ces premiers textes dans le cadre de Soirée Slam que j'interprète. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus souple. Parce que je peux changer mon interprétation, je peux mettre des pauses, je peux décider de couper un texte en plein milieu et de passer à autre chose. Et donc il y a ce truc du présent, de l'instant, de vivant quoi. Et je me dis, ah mais ça me plaît en fait, parce qu'il y a quelque chose, un échange direct avec les spectateurs, le public. Et je crois que c'est cette sensation de partage et encore une fois d'échange ouais, et du public qui t'envoie de la force et tu lui renvoies de la force et c'est comme ça tout le long
et du coup c'est tout le temps différent
et en plus c'est différent à chaque fois selon l'énergie du public et il y a certains morceaux qui marchent mieux que d'autres et certains passages et voilà et après c'est une drogue en fait, c'est besoin de retrouver le public besoin de ouais des applaudissements je sais pas ça fait du bien ça flatte l'ego et puis c'est ces textes que t'écris seul le soir dans le froid ou pas tu vois dans un coin et d'un coup ils prennent tout leur sens et les gens tu vois ce que ça crée chez eux tu vois des réactions sur leur visage t'entends des rires tu sens l'émotion et bref. L'art vivant.
Boire dans les bars avec mes collègues, enchaîner les pintes et les tequila paf. Profiter du coucher de soleil tout en critiquant tous ceux qui m'agacent. Shooter des zombies dans les salles d'arcade, faire du footing ou de l'escalade. Pour sculpter mon body puis chasser les pigeons avec une sarbacane. Pour finir en prison après une sale gardave. Squatter les catacombes toute la night avec un verre d'ayahuasca. Parker Piggy dans un open mic et le check est genre hey yo what's up. Crusher sur des actrices, les DM. Recevoir des dick pics de CM. Traîner sur le darknet et DL. Des photos de vacances dix des DL. Appeler tous mes BFF. Dépenser tous mes billets verts. Voler une fusée SpaceX et terminer fly dans l'ISS. J'ai fini le taf. J'ai fini le taf. J'ai fini le taf. Que veux-tu que je fasse? J'ai fini le taf. J'ai trouver de belles phrases et ne pas les noter. Croiser une belle femme et ne pas l'accoster. Aller m'égosiller dans un karaoké. Demander pardon à ceux que j'ai ghosté. M'aventurer dans des musées, me faire passer pour un guide. Pour embrumer les touristes en décortiquant sticopèque toutes ces toiles qui m'intriguent. Inviter ma sœur à dîner, à deux pattes une salle de ciné. Puis digérer mon burger devant un film d'horreur d'auteur. Ou bien le dernier blockbuster et vibrer. Tracer voir mon papa, l'écouter, retracer toute la saga de notre famille. Ces gens que je vois pas, je les appelle jamais, je le regrette parfois. Rentrer chez moi maintenant, profiter de mes enfants avant qu'ils aillent vivre leurs 20 ans. Que mon cœur en ruine regrette l'ouragan.
Oh, l'air de rien, on est arrivé gare Montparnasse.
Ben, merci monsieur.
Merci beaucoup monsieur.
Merci beaucoup.
Pour le voyage, pour le ride.
Ah cool, merci.
Ça y est, on est arrivé à destination, mais c'est pas fini.
Tu es en tournée en ce moment, elle commence juste à tourner. Là, tu rentres à La Rochelle, mais c'est pour mieux repartir.
Ouais.
Bon, cette fois, je crois que tu as vraiment fini le taf pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que tu pourrais bien faire maintenant?
Ah bah qu'est-ce que... Bah écoute, je vais être totalement honnête et tout. Là, j'ai décalé mon retour parce qu'il fallait...
Pour être avec nous.
Voilà, et qu'on passe ce moment très agréable ensemble. Maintenant, comme je voyage beaucoup, j'ai la carte grand voyageur, voilà. Et j'adore pouvoir la sortir comme ça et tout, au milieu de mes passes Navigo et autres cartes de visite de gens dont j'ai totalement oublié l'existence. Mais c'est dans mon portefeuille. Et il y a le truc un peu VIP, là, grand voyageur. Et tu peux te poser, tu peux charger ton téléphone.
Je savais même pas qu'il y avait ça à la SNCF. Il y a des cafés gratos,
etc. Je croyais que c'était
que dans les aéroports.
Et j'en ai jamais vraiment profité, parce que j'arrive 3 minutes avant que le train parte.
Je veux dire que grâce à RFI, voilà, grâce à BPM, tu vas pouvoir profiter de cet espace.
Exactement.
Ultra VIP.
Sans que mes enfants... soit autour, voilà, exactement. Je vais avoir un peu de temps à tuer, mais je vais en profiter pour faire un peu de com.
Merci beaucoup, Hippocampfou.
De rien.
Je l'aurais dit une fois quand même.
Ouais,
Hippocampfou, c'est bien.
Bien. Ouais,
c'est bien.
Merci,
merci beaucoup pour
merci.
Ton temps.
Merci beaucoup.
Et bon voyage.
Eh ben merci.
Un grand merci à mes kickers à moi, Benjamin Sarallier qui a réalisé cette émission, Jérémy Besset qui l'a mixée et Xavier Gibert qui l'a produite pour RFI Labo. BPM, la rencontre, ça continue sur les réseaux Facebook et Instagram et puis sur le site de RFI et son application Pure Radio où cette émission mixée en Dolby Atmos est disponible en audio 3D ou son spatialisé.
Je feel good.
Ciao.
Au bord de la poule, personne ne boude. La vie s'écoule, s'écoule, je me saoule. Au bord de la poule, les petits se défoulent. La vie s'écoule, s'écoule. J'ai pris d'assaut le hamac. Ma femme lézarde, je la mate. J'aimerais qu'on vieillisse ensemble comme Michel et Barack. J'suis à deux doigts de m'assoupir. Sous le parasol, j'veux pas cuire. J'kiffe le moment présent. Là, y'a pas de passé, pas d'avenir. Héros d'un film d'inaction, couvert de transpiration. Le rosé n'est plus frais, donc j'remets des glaçons. J'ressens de bonnes vibrations. J'laisse venir l'inspiration. Je peins mon texte dans ma tête basé sur ses pures sensations.